Parfois, la Formule 1 est un sport qui a presque l'air facile. En remportant 4 des 5 premiers Grands Prix de la saison 2002, Michael Schumacher semble déjà assuré de remporter sa 5e couronne mondiale. Sa Ferrari est largement supérieure aux autres monoplaces, et son équipier, le Brésilien Rubens Barrichello, ne parvient pas à exploiter sa F2002 avec le même brio. Pourtant, sur le circuit de Zeltweg en Autriche, la machine Ferrari va se gripper. Et sous le soleil des alpages, la foule va se retourner contre le champion.
Épisode 8, les huées de la foule.
Pierre Van Vliet, à 10 tours de la fin du Grand Prix d'Autriche 2002, Rubens Barrichello est en tête et semble avoir course gagnée. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que Radio Todd se fait entendre et qu'on demande à Barrichello de laisser passer Michael pour l'intérêt de l'écurie, etc., etc. Or, Rubens a été le plus rapide dans toutes les séances d'essai, en qualif, et il est en tête depuis le départ. Rubens, il avait des jours comme ça où il était bien, des circuits qui lui convenaient mieux. Et par exemple, Zeltweg ou un ring, comme on l'appelait à l'époque, Michael n'appréciait pas outre mesure. Et donc, il se fait que c'est Barrichello qui emmène les Ferrari qui dominaient leur sujet aussi loin devant la concurrence. Michael avait gagné 4 des 5 premiers Grands Prix. Il avait plus de 40 points d'avance au championnat. À ce stade de la saison, on commence à imposer des consignes d'équipe pour protéger un résultat qui est quelque part gagné d'avance. Ça dénote une forme quand même de paranoïa ou de peur panique de perdre, en fait, alors que c'est évident qu'ils sont en train de dérouler. Et donc, priver Rubens d'une victoire méritée pour un intérêt qui est quand même pas sportivement pas évident et même mathématiquement, stratégiquement pas essentiel, ça a échappé à beaucoup de monde, pour ne pas dire à tout le monde. Bon, il faut savoir que Rubens, cette semaine-là, Rubens, le mardi ou le mercredi, avait signé un contrat, prolongé son bail avec Ferrari pour 2 années supplémentaires, en étant largement payé, etc., etc. Donc il se retrouvait, Rubens, dans une situation où son contrat était assez précis, le fait qu'il était numéro 2 et que les consignes de l'équipe étaient primordiales, etc. Mais on lui a pas laissé le choix, quoi. Et Rubens a gardé beaucoup d'amertume de cet épisode, même s'il l'a pas exprimé à l'époque, parce qu'il il pouvait pas, même si ça se voyait dans le langage corporel. Moi, j'ai parlé de ça avec Rubens après qu'il ait quitté Ferrari, et il en avait vraiment gros sur la patate.
Donc pendant quelques minutes, Rubens Barrichello garde la tête, fait semblant de rien et s'écarte juste avant le dernier virage.
Il entend très mal Radio Todd, mais Radio Todd insiste, et puis c'est son ingénieur de piste, et puis c'est Ross, et puis c'est Jean-Jean lui-même qui donne l'ordre. Il y a un ordre là qui se discutait plus. Et Rubens, le fait, mais il le fait évidemment de la manière la plus ostensible qui soit, c'est-à-dire à 100 mètres de la ligne d'arrivée, sorti du dernier virage, il freine, carrément. Il freine et ça se voit comme une verrue sur le nez. Et Michael passe, et gagne, vole la victoire, quoi, gagne à la sauvette. Donc c'est un peu la honte.
Il a un rôle là-dedans, Michael ?
Quelque part, il en a un, dans la mesure où il entend la radio, il sait qu'il n'arrive pas à suivre Rubens, ou il n'arrive pas à mettre la pression, ou à dépasser Rubens, ou à être suffisamment rapide pour mettre Rubens dans le doute. Donc oui, il en a un, mais un rôle indirect. Et je pense qu'ils ne prennent pas conscience à ce moment-là de ce qui se passe ou de ce qu'ils font. Et puis Michael, finalement, c'est Barrichello qui obtempère, et Michael, il passe, pour lui, c'est la routine, quoi. Barrichello est le numéro 2, point barre. Sauf que ça ne se passe pas comme ça.
Justement, à l'époque, vous commentez les Grands Prix sur TF1 et Jack Lafitte. Qu'est-ce qui se passe dans votre cabine ?
Dans la cabine, on est choqué. Alors, on le sentait venir, parce que ça fait quand même quelques tours que... Voilà. Alors, à l'époque, les conversations radio n'étaient pas diffusées à la télé comme ça, mais on voyait, il y a eu des gros plans sur le muret des stands, où on voyait, on sentait que ça discutait. Mais ce qu'on se disait, Jacques et moi, c'est qu'ils ne vont quand même pas oser, c'est pas possible. Hein. Barrichello, qui a dominé tout le week-end, dans le dernier tour, ils ne vont pas lui demander, lui prendre une victoire qui lui revenait au mérite. Et puis on rappelle que Ferrari domine avec des années-lumière sur la concurrence, parce que c'est à l'époque Bridgestone, ils ont pris un avantage considérable. Et on se dit, c'est pas possible, ils vont pas oser. Et au moment, comme au dernier moment, on voit Rubens qui rentre dans le dernier virage, on dit chouette, allez, yes, Hein, Barrichello va gagner, il en mérite quand même une, quoi, merde. Et puis non, non, on lui enlève. Et on sait ce qui s'est passé, évidemment. Tout de suite, on comprend. Et on est vraiment choqués.
Barrichello devant Schumacher. On rentre dans les deux derniers virages. On va débouler dans la ligne des stands. Barrichello devrait l'emporter.
Oui, il l'a emporté, Pierre.
Et c'est la victoire. Non, non, non,
non.
Incroyable, incroyable.
On est dégoûté, alors on exprime des choses comme tout le monde, hein, parce qu'on est déçu, parce qu'on comprend pas, etc. Il y a tout de suite une coupure pub, hein, on est sur TF1, donc tour d'honneur, on part en pub. Jacques sort de la cabine pour aller à un besoin naturel, il revient 2 minutes après, il me dit, mon vieux, mais c'est l'émeute dans les tribunes. Dans les tribunes, les gens gueulent, ça hue, ils ont le pouce vers le bas, ils ont les casquettes Schumacher au pied, ils marchent dessus. Incroyable, Jacques était surpris par la réaction du public et qui abondait quelque part dans notre sens, ben nous de puristes et de passionnés, on peut imaginer que la Schumi mania serait passée au-dessus de ça. Eh bien non, même eux ont été choqués.
Justement, à cette époque, qu'est-ce que ça raconte en fait cet épisode sur la Scuderia Ferrari à cette époque-là?
Ça raconte qu'ils se sont vraiment isolés dans une tour d'ivoire et que le travail de Jean depuis 10 ans quasiment chez Ferrari a été de mettre en place la machine de guerre, et puis de protéger Michael, et de protéger la famille, l'équipe, le résultat. Et le résultat importait plus que tout. Et la manière, on s'en foutait, il fallait absolument le résultat. Jean a toujours eu cette peur panique de perdre. Et il fallait toujours tout contrôler, il fallait toujours dépenser plus ou avoir la dernière évolution, ou les pneus qui faisaient la différence, parce qu'il... Le principe de compétition ou de concurrence l'angoissait. Je pense vraiment que psychologiquement, c'est comme ça qu'il faut le lire. Et ils étaient tellement isolés dans leur tour d'ivoire, sur leur passerelle de commandement chez Ferrari, qu'eux, ils étaient dans leur course, avec leur casse sur les oreilles, et qu'ils n'ont pas vu venir le truc. Ils n'ont rien compris. À l'arrivée, quand je vous dis la réaction des tribunes ou la cérémonie du podium, mais c'est surréaliste. Il y a le chancelier d'Autriche qui est là. Schumacher s'est rendu compte dans le tour de retour et puis au parc fermé, en sortant des voitures, etc. Les huées, jamais ils ont vécu ça. Ils montrent le podium. Alors bon, Rubens, entre Rubens et Michael, évidemment. Hein, Rubens, il a déjà eu droit à ça l'année d'avant, c'était pour une deuxième place. Bon, Rubens, c'est la Red Bull. Michael le voit, le sait. Enfin voilà, c'est des pilotes quand même. Hein. Et puis ils montrent le podium et là, Michael a tellement honte qu'il descend sur la deuxième marche et qu'il fait monter Rubens sur la première. Avec l'hymne national allemand au lieu du brésilien, mais bon, de toute façon, c'est pas le brésilien qui a gagné, enfin, c'était n'importe quoi. Mais ça en disait long sur le flou artistique qui tout d'un coup les envahissait, et tout d'un coup, on sortait de la tour d'ivoire et on reprenait contact avec la réalité, et la réalité les cueillait comme ça, à froid, de plein fouet. Rubens et Michael rentrent en salle de presse après pour la conférence de presse, comme le veut la tradition, comme d'habitude sur les Grands Prix. Il y a 300 journalistes qui huent Schumacher en rentrant en salle de presse. Alors là, plus encore que la réaction du public qu'il avait, disons, perçue sans tout à fait réaliser, là, c'est les suiveurs de la F1, c'est les observateurs, c'est les journalistes, c'est le monde entier qui marque une réprobation comme ça n'avait jamais arrivé auparavant, mais jamais. Et là, ils tombent de l'armoire, quoi. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie, mais c'est trop tard. Et alors, à leur charge ou à leur décharge, ils font tout pour... la justifier, pour expliquer que c'est comme ça et pas autrement, et que si c'est comme ça dans 15 jours, on refait la même chose, etc., etc., ce qui était impensable. Mais voilà, ils n'ont même pas eu, la clairvoyance de se dire « Sorry, on n'a pas réalisé que c'est vrai que... » Non, c'était « Nous, c'est comme ça que ça marche, pas autrement. » Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de remous dans les jours qui ont suivi, y compris chez Ferrari. Luca Di Mollo, on n'a pas beaucoup entendu pour soutenir la Scuderia... Le soir même ou le lendemain. Et le lendemain, c'était les concessionnaires qui appelaient parce qu'il y avait des clients qui ramenaient les voitures. Ça avait cet impact-là. Alors c'est vrai que win on Sunday, sell on Monday, comme on dit dans la course automobile, hein, que la course faisait vendre à la belle époque. On gagnait le dimanche et on vendait les voitures le lundi. Là, c'était le phénomène inverse. Et ça en dit long, je trouve, sur le fait que, ils étaient tombés sur leur tête, quoi. Et que leur réussite... Et leur suprématie absolue les avait complètement isolés des réalités et qu'ils se sont cru tout permis, en gros.
Justement, c'est une époque où on commence à songer, face à la domination de Ferrari, à changer le règlement. On a des hypothèses un peu folles, genre échanger les pilotes à chaque Grand Prix, leur faire changer de voiture, etc. Il y a eu une fronde anti-Ferrari à ce moment-là ?
Pas une fronde, non. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa qui veut qu'il fallait tout faire pour que Ferrari tombe de son piédestal. Mais il y avait quand même un sentiment de domination sans partage et qui n'était pas équitable. Notamment parce que Ferrari avait anticipé, et c'est malin de la part de Jean Todt, et politiquement c'est très intelligent, anticipé le fait que Bridgestone devenait, sinon le fournisseur unique, en tout cas pendant un an ou deux, je crois que ça a été le cas, et il y a eu un contrat de partenariat exclusif ou privilégié de Ferrari avec Bridgestone. Du coup, en janvier-février, Michael Schumacher tournait à Fiorano du lever du jour au coucher du soleil, il faisait 15 000 bornes, il déterminait les pneus, les gommes pour la saison, et après seulement la concurrence découvrait avec quels pneus ils allaient faire le championnat. Donc ça, ok, c'est pas interdit par le règlement, c'était les circonstances et le côté un peu machiavélique quelque part aussi du management de Ferrari et de Jean, mais bravo, parce que voilà, c'est le fameux unfair advantage, prendre l'avantage de façon pas très sportive. Et ça caractérise un peu cette époque et cette domination Ferrari.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy David, prise de son montage Clément Rieter, voix off Marie Lisac.